pour avoir accès aujourd'hui à des soutiens publics, de quelque nature qu'ils soient, hein, c'est pas que de la subvention, par exemple nous, on gère un fonds d'investissement pour la région. Forcément, l'Europe, aujourd'hui, ne donne plus des aides, ne soutient plus les projets qui ne sont pas innovants. Après, ça n'empêche pas les gens de créer des choses qui ne sont pas innovantes, hein. Mais ils ne peuvent pas prétendre, à ce moment-là, à des soutiens publics de quelque nature ce soit. Ou en tout cas, des soutiens qui font appel aux fonds européens, c'est-à-dire la plupart des soutiens publics, aujourd'hui, font appel aux fonds européens, enfin en Corse. Hein. Bon. Par contre, l'innovation, c'est l'innovation au sens large. L'innovation, donc en Corse comme ailleurs, si on se réfère à ce qui est la définition de l'Union européenne pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des interventions publiques dans les entreprises et qu'elles soient admises, c'est des innovations, bien sûr, technologiques, enfin la rupture technologique, bon, que tout le monde connaît, et derrière, ça peut toucher plein de choses. Donc il y a les quatre secteurs, en gros, innovation d'organisation, donc mise en place d'un nouveau mode de fonctionnement, d'une... C'est-à-dire vous changer les procédures d'organisation interne dans l'entreprise pour la rendre plus efficace. Puis, ouais, bon, vous êtes entreprise innovante. Innovation marketing, bon, concept, stratégie de vente nouveau. Bon, rien, vous faites un site internet pour vendre vos produits, vous êtes innovant. Innovation produit, bon, là, il faut que vous inventez quelque chose qui change. Hein. Et innovation de procédé, donc ça, c'est innovation dans la façon de...
Fabrication,
ou dans la distribution, ou dans la logistique, enfin, tout ce que vous voulez, voilà. Bon, ça, c'est innovation. Donc, à partir de là, aujourd'hui, on peut considérer, en tout cas, nous, pour les entreprises sur lesquelles nous intervenons, par obligation, on est dans des entreprises qui répondent à ces critères d'innovation.
Concrètement, vous en avez combien ?
Avec le fonds d'investissement, on en a financé à l'heure actuelle 24.
En ce moment, il y a 24 entreprises qui sont en train de se développer grâce à vous.
Qui sont en train de se développer, ouais. Qui se créent, ou grâce à nous. Enfin, il n'y a pas que nous, hein, les entrepreneurs.
Et vous disiez que vous gériez les...
Ça, c'est les entreprises dans lesquelles nous avons investi le fonds, justement, qui s'appelle l'investissement et de compétitivité, mis en place par la région. Voilà. Après, on a d'autres entreprises aussi sur lesquelles on a investi d'autres fonds. Mais ça, c'est, on va dire que c'est des entreprises qui ont bénéficié d'une intervention, donc de capital investissement, hein, donc c'est pas de la subvention, hein, pour se développer avec un caractère innovant. Bon, et encore une fois, innovant, voilà, hein, vous mettez de la clim dans des ateliers, par exemple, pour améliorer le... votre investissement a un caractère innovant parce qu'il va améliorer les conditions de travail, il va améliorer la productivité, donc il va améliorer donc, la compétitivité, ou ça va vous améliorer l'accueil client, par exemple. Voilà. Un agrandissement pour un commerce, la mise en place d'un service après-vente, de vente internet. Bon, là, on est dans les entreprises commerciales. Hein. Donc voilà, vous avez un certain nombre de choses de ce type-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer, quand on classifie des entreprises innovantes, il ne faut pas imaginer qu'elles ont tout inventé fil à couper le beurre. Hein. Voilà. Par contre, elles sont obligées d'aller de l'avant. Enfin, obligées. Disons qu'aujourd'hui, pour bénéficier donc, de l'intervention publique, il faut proposer à l'entreprise d'aller de l'avant, donc dans les quatre domaines qui ont été cités. Et donc aujourd'hui, on peut considérer que les entreprises qui investissent, enfin moi je ne sais pas, nous, notre panel... évidemment correspond à ça, mais bon, on peut considérer que globalement, les entreprises qui investissent, c'est pour améliorer leur productivité, leur compétitivité, aller de l'avant, et donc elles sont globalement innovantes, entre guillemets, si on reste dans ces critères-là d'innovation. D'ailleurs, le truc qui avait été fait en octobre 2010 par l'INSEE, c'est là que la force surtout tournée vers l'innovation non technologique. Bon, voilà. Après, bon, il y a quand même des gens qui font des choses. Hein.
Vous dites que vous gérez des fonds européens, mais c'est pas des particuliers qui viennent mettre leur argent
On a les deux. On a un autre capital qui est constitué par de l'argent privé, d'actionnaires qui ont souscrit au capital. Donc avec cet argent-là, il est investi dans des entreprises qui en général sont aussi, enfin, avancent et sont aussi globalement innovantes, mais on n'a pas d'obligation avec ces fonds-là de répondre à quelconque critère d'innovation. On doit répondre surtout à la création d'emplois. Voilà. Avec le fonds européen que nous gérons, pour le compte de la région, là, il y a obligatoirement des critères dits d'innovation. D'ailleurs, souvent, les critères d'innovation de compétitivité ou de productivité, ils ont un effet qui est souvent de limiter le nombre d'emplois, voire parfois même d'en éliminer. C'est une caractéristique un peu, bon, qui est un peu contradictoire d'ailleurs, nous, avec notre mission d'origine qui est la création d'emplois. Mais après, il y a aussi le maintien d'emplois. Sachant qu'une entreprise qui n'innove pas, c'est qu'elle n'améliore pas ses process, y compris au détriment de quelques emplois, a peu de chances de conserver tous ses emplois sur le moyen terme. Enfin, c'est un peu le...
Donc, à quoi ça, à la question à quoi ça sert d'innover, c'est une solution à la crise et,
Disons que c'est une solution à la crise, non, c'est une solution à la pérennité des entreprises. Mais c'est de tout temps, hein. C'est pas propre à aujourd'hui. Hein. Un entrepreneur, il est tout le temps en train de chercher à améliorer et à innover. C'est le propre de l'entreprise. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, pour bénéficier d'aide publique, il faut être innovant. Il y a quelques années, il suffisait de créer des emplois. La création d'emplois en elle-même, l'installation d'une activité en elle-même était suffisante pour qu'on considère que c'était un plus à une région, à un territoire, à une commune, et que donc éventuellement les politiques publiques pouvaient intervenir pour soutenir telle et telle activité. Aujourd'hui, on a considéré que c'est innovant. Pour soutenir les entreprises, il faut qu'elles soient innovantes. Ou sinon, le soutien il est indirect, etc., à travers la structuration de filières. C'est-à-dire qu'on ne va plus soutenir les entreprises directement, mais on va obliger les gens à plus ou moins s'organiser. Comme ça, on va avoir des plans pour soutenir l'aquaculture. On oblige les gens, les entreprises, ou la filière aéronautique, par exemple. Aujourd'hui, il n'y a plus forcément d'aide directe, mais on va aider les entreprises du pôle aéronautique à Ajaccio. Il y a plusieurs entreprises, mais on va les aider pour former, pour recruter.
Est-ce que vous avez un exemple d'entreprise hyper innovante que vous avez aidé, vous, particulièrement?
Innovante, je peux vous en citer, pour que ça parle, hein, parce que la plupart, donc, comme je disais, elles ont ce caractère d'innovation, je dirais quasiment obligatoire. C'est presque le mouvement, c'est innovation, quoi, en fait. Faut pas être statique. Donc je dirais évidemment Pietre en termes d'innovation produit, la bière à la châtaigne, il y a 20 ans en Corse, et l'innovation dans le produit, qui est un peu l'innovation marketing, en fait. L'innovation produit, c'est un produit donc, qui n'existait pas, et sur un territoire qui n'était pas... Voilà, on a donc AM Environnement, qui est le premier centre de récupération, trivalorisation des déchets en Corse, qui est une innovation, pas au sens où c'est le premier en Corse, quoi, hein, qui est en place, donc c'est la première activité de ce type.
Est-ce que le fait que ça existe autre part avant d'exister en Corse, est-ce que ça, on peut considérer ça comme une innovation?
Et bien sûr. C'est le principe de l'innovation. Vous apportez un service nouveau et une prestation dans un territoire où elle n'y est pas. Donc votre entreprise est innovante. Elle est innovante sur un territoire. C'est ça qui est...
Et si le magasin à côté a déjà la clim, là c'est innovation?
En tout cas, c'est ce qui est considéré comme innovation par le texte officiel, hein, le processus d'Oslo, qui a défini ce que c'était l'innovation pour que les politiques publiques puissent s'adosser à l'innovation et pour qu'on puisse encourager les entreprises à innover. Innover voulant dire donc améliorer. Donc c'est améliorer ses process internes, mais c'est aussi apporter un service sur un territoire et qui lui-même modifie complètement les process au sein du territoire. Le fait qu'il y ait un centre de tri valorisation des déchets en Corse aujourd'hui, ça change complètement le process de traitement des déchets. Voilà. Et ensuite, vous avez par exemple massalledebain.com, donc société Aristil qui a développé site à partir de la Corse de vente de produits de salle de bain
qui agit au niveau national
qui donc en fait est une innovation. Alors là c'est pareil, c'est une innovation, le site internet ça existe, la vente par internet ça existe, mais en interne une entreprise qui passe de la vente magasin au développement d'un site internet pour vendre des produits dans toute la France à partir de la Corse. Le produit, évidemment, ne touchant pas la Corse. Hein. Les entreprises sont fabriquées en Chine ou en Espagne, selon des lignes spécifiques. Donc, c'est une entreprise de logistique. Mais pour la maison mère Aristide, qui était un magasin il y a 30 ans, était un magasin vide, hein, et a fait le bon Bastia Sud, commercial, fait le bon Internet. Bon, c'est une innovation pour devenir numéro un pure player en France. Bon.
Ensuite, est-ce que vos porteurs de projets connaissent des freins à l'innovation en Corse, hein?
Alors là, je dirais oui et non. Je dirais non si on est dans l'innovation telle que je l'ai définie tout à l'heure. Je dirais même c'est le contraire, puisque en principe, les politiques publiques aujourd'hui favorisent l'innovation. Alors, évidemment, il y aura des freins si vous êtes dans une activité basique, commerciale, et que vous faites la demande sur votre magasin, ou bon, vous améliorez la prestation client, bien sûr que... Mais vous, non, je pense, il n'y a, a pas de frein. Je ne ressens pas de frein, je ressens au contraire que les politiques publiques, mais même les politiques privées, les banques et tout, aujourd'hui, elles sont plutôt encouragées à financer les entreprises qui innovent, qui avancent, qui bougent. Alors bien sûr, de façon intelligente et rationnelle, hein, en fonction de leur bilan, de leur marché. Bon, en fait, ils ne financent pas n'importe quoi, évidemment. Ce n'est pas parce que vous innovez qu'on va vous faire des crédits. Non. Par contre, il y a un frein, je pense, pour ce qui est évidemment de l'innovation purement technologique, pour ce qui est de l'amorçage, quoi, hein, ouais, de la recherche. Et alors là, on est dans l'innovation de rupture, parce que l'innovation de rupture, elle doit se financer suffisamment en amont. Et là, effectivement, alors là, la Corse, elle est complètement sous-dotée. Alors il y a le, vous avez peut-être rencontré M. De Zerbi, qui est là. Donc, il gère un fonds d'amorçage, il finance un certain nombre de petits jours, il y a l'incubateur. Bon, là, il y a une petite politique. Je ne dirais pas qu'elle est insuffisante, je n'en sais rien, parce qu'il faut faire le rapport entre la demande de projets de ce type. Bon, maintenant, je constate qu'effectivement, les gens qui veulent développer des process et des idées, la Corse, ce n'est pas le meilleur territoire, hein, c'est sûr.
Donc, c'est pour les créateurs qui
apprennent. Oh, c'est en amont de la création.
D'accord.
C'est parce que quand vous êtes à la création, déjà, ça veut dire que vous avez pu développer quelque chose. Et que, voilà, c'est vraiment en amont. C'est le développement, process, produit. Et la Corse n'est pas le meilleur territoire pour 10 000 raisons, parce qu'il n'y a pas spécialement de culture. Encore une fois, pas d'innovation, hein, puisque l'innovation au sens large n'est pas plus mauvais que les autres, parfois même on est très bon. Mais l'innovation, on va appeler de rupture technologique. Il faut à ce moment-là être dans des endroits où il y ait des industriels, des financeurs, qui connaissent, ce qu'on appelle un environnement favorable, qui va faire que le type il va trouver de l'écho, s'il invente un truc, il va trouver de l'écho auprès d'un industriel ou d'un business angel qui est habitué à. Ou des fonds d'investissement qui existent sur le continent. Il y a des fonds d'amorçage, des vrais fonds d'amorçage. Bon, ici, il y en a un, hein, la région en a mis en place, il fait 2 millions d'euros. Bon, à mon avis, ça peut suffire. Mais après, est-ce qu'on a les capacités à analyser en amont les bons process, les bons produits, les bons. Bon, là, voilà. Je ne suis pas sûr qu'il manque, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une demande non plus.
Vous n'en êtes pas, hein, de fonds d'amorçage.
Nous, non. On ne fait pas d'amorçage.
Alors, parce que les fonctions, c'est.
On ne fait pas d'amorçage parce qu'on considère qu'on n'est pas capable de...
L'amorçage, c'est un petit point de risque très particulier.
Voilà. L'amorçage, il faut être plutôt du métier qu'un financeur pour financer de l'amorçage, en fait. Il faut être plutôt connaisseur. Vous voulez financer de la biotechnologie ou des nouveaux médicaments, des trucs comme ça. En général, les fonds d'amorçage, ils ont des experts, ils sont adossés à des grandes industries, et bon, ils financent ce genre de choses. Alors... Nous, on ne fait pas ça. Bon, il y a le fonds d'amorçage région, hein, qui, a priori, peut faire ça, et qui a une petite équipe technique, enfin, en tout cas, pour un certain nombre de domaines. C'est sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut vraiment faire l'innovation de rupture technologique en Corse, ça ne va pas être simple. Je ne dis pas qu'ailleurs, ça va être facile. Hein. À mon avis, c'est quand même compliqué partout de trouver des sous pour,
en France,
pour développer des trucs. Hein. Voilà.
C'est un très bon endroit dans le monde.
Peut-être aller en Californie.
Californie, c'est l'archétype. Mais bon, il y a dans le Texas, etc. Mais bon, il y a 10 endroits dans le monde où l'écosystème de l'innovation technologique est complet, et c'est le maximum. Non même en France, la sortie de Sophie Nova et ces gens-là, il y a peu de fonds d'investissement vraiment positionnés très en amont. Hein.
Il y a les FCPI qui sont censés faire ça.
Mais le
problème, c'est qu'après, dans l'amorçage, c'est pareil. Il y a plein de stades dans l'amorçage.
Bien sûr.
Dans l'amorçage, il y a vraiment le type qui va développer une idée ou qui va être très, très en amont dans la recherche. Et on va miser sur la qualité du bonhomme, sur ce qu'il a déjà fait, sur le type qui est en face, qui va comprendre vite que peut-être là il y a quelque chose à gratter. Bon, là on est vraiment très très tôt. Après, l'amorçage que va financer la région, c'est l'année précédant l'ouverture ou le lancement d'un produit, mais sachant qu'on a déjà quand même pas mal avancé. Mais, c'est vraiment, voilà, c'est l'année hantée.
Ils sont déjà au business plan, ils ont déjà tout fait.
Oui.
Et vous en êtes là aussi. Vous êtes à l'année précédente
Non, en général, non. On essaye, au mieux, on est en année 1. C'est-à-dire qu'on a déjà un produit, on est déjà au moins, enfin, théoriquement, on est en année 1. C'est-à-dire qu'il y a au moins un produit, un test marché, quelque chose qui nous permet de dire, bon... Le capital risque, théoriquement, c'est les 3, voire les 5 premières années. Là, on est toujours en création. Quand vous investissez dans une entreprise qui a 3 ans, en fait, vous êtes toujours en création. C'est toujours la création. Il y a la création juridique, c'est une chose, mais une entreprise qui a 3 ans, statistiquement, pour les fonds d'investissement, c'est toujours des fonds de capital risque, en fait, parce que vous êtes, évidemment, une entreprise qui a 3 ans, elle est autant en risque que la première année et que l'année d'avant. Et souvent même, c'est jusqu'à 5 ans.
Et le fait, oui, est-ce que c'est une innovation en quelque sorte?
Ah ben, on peut dire ça comme ça, oui. En tout cas, à l'époque, c'était une vraie innovation que nous n'avons pas inventée. C'est les Basques qui l'ont inventée. Ça, c'est Ricoa, ils ont inventé ça dans les années 80. Que la collecte de fonds, d'argent privé, pour investir dans des entreprises. Ils ont inventé ça, en tout cas en France. Nous, on l'a repris une dizaine d'années plus tard, et une dizaine d'années plus tard, donc dans les années 90, et une dizaine d'années plus tard, l'État l'a repris en créant les fonds d'investissement de proximité, les FIP, qui sont des fonds qui collectent de l'argent auprès de gens qui ont donc un petit avantage fiscal et qui doivent être investis dans la région. Effectivement, à l'époque, c'était innovant. Je pense qu'on est toujours innovant dans le sens où...
Vous êtes les seuls en Corse.
Voilà, on est seuls en Corse, on a aussi une organisation innovante dans le sens où les petits porteurs qui n'ont pas forcément la majorité du capital ont la majorité de la gestion. Donc on a aussi innové, là aussi ça a été repris maintenant aujourd'hui à travers le statut qu'on appelle des SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui reprend l'idée que entre la coopérative où il y a un homme, une voix, et la société anonyme où il y a une action, une voix, nous on avait inventé un mixte en disant, bon, nous on a les 2000 actionnaires, on est nombreux et mais on n'a pas la majorité du capital puisqu'il y a la région. On a la majorité du capital parce qu'il y a la région et la Caisse des dépôts, mais on a 51%, mais on veut 70% des organes de décision. Donc on a inventé le déséquilibre. Le déséquilibre au profit du nombre plus qu'au profit de l'argent. Et la SIC a repris ça aujourd'hui. C'est un statut officiel qui existe, qui permet à des espèces de coopératives finalement d'avoir des actionnaires qui mettent de l'argent dans la coopérative, mais qui n'ont pas forcément une voix non plus. Donc voilà, là-dessus, on est un peu innovant aussi.
Vous êtes sûr que, bon, ouais, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de cas à l'époque de sociétés anonymes qui avaient fait appel public à l'épargne et qui avaient proposé des modèles de gouvernance de ce type. Je ne sais même pas s'il y en existe encore beaucoup maintenant.
Et c'est en fait ce qui a été repris dans les modèles de SIC aujourd'hui. C'est exactement ça. En fait, on était une espèce de SIC avant l'heure. On a été beaucoup de choses avant l'heure, en fait, hein, et sans le savoir, hein. Aujourd'hui se développe aussi par exemple la finance solidaire. C'est quoi la finance solidaire? C'est des gens qui mettent leur épargne dans une société ou dans un produit. Enfin, en France ça s'appelle la finance solidaire, en Italie ça s'appelle la finance éthique, mais bon, c'est des organismes qui aujourd'hui collectent de l'épargne, donc comme nous, mais c'est de l'épargne dédiée, l'épargne qui a un sens, où les épargnants disent, bon, moi mon argent il est là et je sais qu'étant là il va financer, ben, pour nous c'est l'emploi en Corse, pour d'autres c'est l'agriculture biologique, c'est le solaire, le photovoltaïque, le social, les emplois des handicapés. Elle est dédiée, ils disent, moi maintenant je renonce à la limite à gagner beaucoup d'argent avec mon épargne, mais je sais, oui, alors c'est pas la majorité de l'épargne qui est aujourd'hui placée dans l'épargne solidaire, hein, faut pas, mais ça se développe, ça existe, c'est structuré. Aujourd'hui, il y a des organismes nationaux, il y a des collecteurs, il y a même des fonds d'épargne salariale solidaire. Donc, c'est quelque chose qui se développe. En tout cas, c'est une niche. Hein, ça reste une, je pense que ça restera une niche. Mais il y a une niche pour des gens qui disent, ben moi, au moins une partie de mon argent, j'ai envie qu'elle serve pas à aller sur les marchés ou au CAC 40 ou à la bourse, mais qu'elle aille, voilà, que mon argent serve, une partie en tout cas, serve à quelque chose de précis qui me tient à cœur, qui peut être sa région, sa commune, mais qui peut être l'aide aux pays du Sud. Et nous, finalement, on se trouve finalement faire partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance solidaire, sans qu'on l'ait structuré intellectuellement comme tel. C'était une démarche qui... Voilà. Et aussi bien ce qu'on appelle l'épargne régionale que l'épargne solidaire. Bon, ben à l'époque, des Basques et de nous, c'était des trucs complètement qui tombaient de la lune. Ben aujourd'hui, ça rejoint des mouvements plus importants d'organisation de la finance, des circuits courts de la finance, par exemple. Ben aujourd'hui, vous allez voir, ça va se développer. Hein. Le financement de proximité, vous l'avez aujourd'hui, vous avez des sites où vous pouvez financer directement des porteurs de projets. Alors, je ne dis pas que nous, on n'est pas directement, l'actionnaire chez nous ne finance pas directement le projet, mais comme on a 2000 actionnaires et qu'on a 30 entreprises, bon, il prend notre site, il se dit, voilà, mon argent, je l'ai mis là, ben, j'ai 30 entreprises dans lesquelles il a atterri. Donc, on est juste un intermédiaire un peu, un peu plus important, mais... On n'est pas non plus un truc monstrueux. Les gens savent, connaissent encore ça. Bon, ils vont sûrement connaître quand même des entrepreneurs. Donc il y a un lien direct entre l'épargnant et l'entreprise. Et ça, c'est des choses qui, il y a 20 ans, bon, étaient très innovantes. Aujourd'hui, ça s'est repris, même si ça reste en volume, les niches, hein, par rapport à l'ensemble des flux financiers, des flux d'épargne. C'est microscopique. Hein. Mais voilà, c'est un signe et on est là-dedans. On s'est retrouvé là-dedans, même pas spécialement meneur, hein. C'est pas nous qui avons bâti tous les réseaux nationaux ni rien. Je trouve que voilà, on était un peu en avance. Alors, l'accord, c'est pas toujours en retard. Hein. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Et finalement, bon, ben, on s'est retrouvé là. Quoi. Ça fait bouger les choses hein, sans le savoir. Peut-être même sans le vouloir. Je sais plus.
Et vous, il y en a beaucoup qui arrivent. Vous n'avez pas à aller les chercher
Ah, les porteurs de projets, ils arrivent. Oui.
Donc on innove en Corse.
Ben, il y a de la création d'entreprise. Nous, on voit beaucoup de créateurs, hein, de gens qui soit qui vont créer, soit qui ont déjà créé, soit qui ont un an ou deux qui ont créé, qui sont en difficulté. Bon, c'est normal. Hein, parce que quand on crée, c'est dur. Voilà. Et où les banquiers, c'est pas dans la création qu'ils sont le plus réactifs. Hein. Mmh. Ils aiment bien avoir des gens qui sont en face, qui ont déjà un peu de. Voilà. Donc oui, on voit pas mal de gens qui veulent créer. Alors après, toutes les créations sont pas innovantes, il y a toujours des créations de restaurants, des magasins de prêt-à-porter, tout ça. Hein. Bon, ça, nous, on ne fait pas. Hein. Tout n'est pas innovant, mais il y a pas mal de gens, oui, qui créent, qui ont envie. Oui, bien sûr. C'est une terre assez dynamique, hein, la Corse. Pas facile, mais plus dynamique.
Plus que d'autres en France ou...
Ben, les statistiques disent que oui, en termes de création. Statistiques, mais bon, dans les créations, après, il y a tout, il y a les auto-entrepreneurs, ouais. Il y a les bars, il y a les restos, il y a les... Non, c'est moi. Bon, alors après, il faudrait faire le tri pour voir si on est dynamique vraiment dans des secteurs porteurs, nouveaux, innovants, est-ce qu'on est dynamique dans la paillote, dans le restaurant, dans la pizzerie, ou est-ce qu'on est dynamique dans l'Internet, dans la... Bon, voilà, ça... pas trop. Mon sentiment, c'est quand même plutôt oui, je dirais. Une génération qui me semble... Moi, ce que je croise, mais c'est pas de la stat, hein. Ça m'a l'air plutôt... Enfin, je trouve quand même qu'il y a des gens qui essayent, des jeunes qui essayent de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Il y a aussi beaucoup qui font des choses ordinaires, hein, classiques, parce que, bon, comme partout, hein. Voilà, mais je trouve que c'est pas... Enfin, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Mmh.